Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique réalisée en partenariat avec l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, qui organisait cette semaine à l'Assemblée Nationale à Paris un colloque consacré au terrorisme. Deuxième volet de notre réflexion sur cette question, les contradictions de la lutte antiterroriste. Regard sur la réponse politique des gouvernements et notamment du gouvernement français à cette irruption voire retour du terrorisme en France et ailleurs dans le monde. Quelles explications donner au chemin emprunté par la lutte contre le terrorisme, plutôt militaire et policier que politique, que dire des résultats? Les approches sont-elles efficaces? Et quel état des lieux peut-on faire des conséquences sur les droits de l'homme en France et au Moyen-Orient? Regard sur la législation antiterroriste avec nos invités. Laurence Blisson, secrétaire générale du syndicat de la magistrature, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Bayeh Eldine Hassan, directeur du Cairo Institute for Human Rights Studies, institut du Caire d'études sur les droits de l'homme, bonjour.
Bonjour.
Et Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, bonjour.
Bonjour.
Après les attentats de 2015, les autorités françaises ont renforcé la législation antiterroriste, durci la politique pénitentiaire et donné plus de moyens aux forces de l'ordre, en particulier à celles en charge du renseignement, plus de moyens à la justice également. Quel regard portez-vous sur les mesures prises dans notre pays après ces attentats et pour faire face à la question djihadiste, Laurent Blisson?
Alors en réalité, les mesures législatives se sont accumulées même avant ces attentats de 2015, puisqu'on est, si on prend comme point de départ 2012, dans une succession de lois qui sont intervenues de manière générale dans un contexte qui est similaire, c'est-à-dire des débats parlementaires qui ont été expédiés, débats parlementaires qui n'ont pas permis de véritables reculs sur l'existant en matière de législation antiterroriste et sur les nécessités véritables dans une démocratie, ni sur les équilibres. Ce qui a été voté dans de très nombreuses lois, ce sont des dispositifs qui sont, de manière systématique, allés dans le sens d'une plus grande répression, de plus de pouvoirs de police ou mis entre les mains des juges dans un déséquilibre qui était pourtant manifeste. Et puis, ce sont aussi des mesures qui ont donné au ministre de l'Intérieur ou au Premier ministre des pouvoirs intrusifs et des pouvoirs de privation de liberté extrêmement forts. On a eu l'interdiction administrative de sortie du territoire, les blocages administratifs de sites, l'ensemble des dispositions qui relèvent de l'état d'urgence. Et donc, on est aujourd'hui dans un arsenal répressif antiterroriste qui était déjà extrêmement lourd avant le début du quinquennat, qui a été aggravé très clairement avec une volonté politique qui était celle de ne pas soumettre ces dispositifs ni à un débat démocratique véritable, ni à un contrôle relatif à la proportionnalité, à la nécessité, qui sont des exigences absolues dans une démocratie, et notamment en écartant possibilité d'un contrôle de constitutionnalité, par exemple, ou même lorsqu'il a eu lieu, et ça a été le cas récemment, puisque le Conseil constitutionnel a enfin censuré le délit de consultation habituelle de sites faisant l'apologie ou le provoquant au terrorisme, a contourné de manière absolument éhontée une décision du Conseil constitutionnel en réintroduisant quelques jours plus tard un texte quasi identique. On est allé dans une mauvaise voie, qui était celle de l'accumulation de dispositions toujours plus intrusives et créant un déséquilibre, alors même qu'il n'y a pas de réflexion aujourd'hui sur une évaluation globale à laquelle nous appellent les institutions européennes de la pertinence et de la nécessité des dispositifs juridiques. On a un arsenal répressif qui est aujourd'hui déséquilibré.
Michel Tubiana.
Laurence a dit beaucoup de choses. Je voudrais y ajouter deux points. Le premier, c'est que tout cela, ainsi que nous l'avions dit d'ailleurs dès 1986, l'année de la première législation antiterroriste en tant que telle, que cela allait polluer le reste, c'est-à-dire le reste du droit. Et bien, nous y sommes. Nous avons maintenant une architecture de répression, le grand banditisme qui s'inspire très largement des méthodes de l'antiterrorisme. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, par exemple, l'anonymat des policiers, qui était exceptionnel, devient maintenant presque possiblement la règle avec le dernier texte qui a été adopté comme une espèce de signature infâme de la session de cette législature, tout récemment. C'est-à-dire qu'on incorpore au fur et à mesure, à l'intérieur du droit commun, les dispositions qui sont censées être d'exception dans le cadre d'une lutte bien spécifique contre le terrorisme. Et on l'incorpore à propos de beaucoup de choses. Deuxième explication, c'est que, bon, on le sait, la démocratie a énormément de difficultés à lutter contre le terrorisme en conservant son âme. Et en l'espèce, on voit bien que les digues ont très facilement cédé. Depuis 2012, mais même avant. Dès lors qu'il s'agit d'un texte de loi antiterroriste, c'est la surenchère sécuritaire. Alors lorsque la droite est au pouvoir, la gauche se donne l'impression de avoir le beau rôle en critiquant des atteintes aux libertés, mais dès que la gauche est au pouvoir, elle ne veut pas être suspecte d'accusations d'insécurité ou de laxisme, et donc tout cela se lie dans un espèce de mouvement brownien infernal qui fait que le seul résultat au bout du chemin, c'est un déséquilibre de plus en plus flagrant en termes de pouvoir de l'État et de liberté. Mais c'est aussi un déséquilibre institutionnel, parce que le Parlement, ne jouant plus dans ce domaine son rôle de contrôle, d'élaboration, il ne reste plus en dernier recours que soit la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est à très longue échéance et encore pensionnaire, soit le Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel, dans sa composition actuelle, bon, on fera pas de commentaires, mais c'est effectivement un lieu de compromis entre les politiques et non pas un lieu de réelle élaboration du droit et de réel contrôle. On le voit bien dans certaines décisions qui feraient rougir n'importe quelle autre cour constitutionnelle européenne, tant elles sont invraisemblables.
Alors vous avez parlé l'un et l'autre, Laurence Bisson, Michel Tubiana, de déséquilibre, d'absence de débat parlementaire. Quelle est l'explication que vous pouvez donner à cette absence de débat parlementaire? Et finalement, si on va au-delà, est-ce que les fondements de la démocratie vous semblent aujourd'hui menacés? Vous avez souligné l'un et l'autre l'absence de rétropédalage possible par rapport à cette accumulation, pas possibilité de retour en arrière. Les fondements de la démocratie vous semblent menacés, Laurence Bisson, Michel Dubiana?
Je ne sais pas si les fondements de la démocratie sont menacés, en tout cas l'équilibre des rapports de pouvoir à l'intérieur de la démocratie et la protection des libertés individuelles est-elle sérieusement menacée? J'ai même qu'elle n'est pas simplement menacée, elle est atteinte aujourd'hui. Les normes juridiques qui ont été adoptées sont des normes qui potentiellement portent atteinte à la liberté de manière à la fois disproportionnée et surtout inutile. Il y a quand même un élément là-dessus sur lequel il faut que j'insiste, c'est que par exemple, sur les mesures d'état d'urgence, toutes ces assignations à résidence qui ont pourri la vie de centaines de personnes, toute cette espèce de stigmatisation auxquelles ont donné lieu ces mesures à l'égard de toute une catégorie de la population en France, les musulmans et les musulmanes pour ne pas les nommer, etc., pour aboutir à quoi ? À pratiquement aucune procédure ouverte en raison de questions d'antiterrorisme. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'effet d'annonce, mais dans l'effet d'annonce pervers, puisqu'il consiste à dire « je tape et je tape ».
Alors justement, l'état d'urgence, après ça je vous repasse la parole, Laurence Bisson, l'état d'urgence, il fait débat. Est-ce qu'il a été utile? Est-ce qu'il l'est toujours? Est-ce qu'il faut en sortir?
Alors, précisément, c'est là-dessus que je voulais revenir, sur le fait que nous étions depuis plus d'un an en état d'urgence et qu'il me semble, lorsqu'on parle de savoir si les fondements de la démocratie sont menacés ou atteints, que cet élément est essentiel. On est depuis plus d'un an dans un régime qui donne au pouvoir exécutif des pouvoirs intrusifs, des pouvoirs de privation de liberté, quelle que soit la manière dont le Conseil d'État euphémise cette notion en parlant de simples restrictions, dans un cadre qui, pour nous, n'est pas acceptable. Au syndicat de la magistrature, on a dit dès le départ que l'état d'urgence n'était pas nécessaire. Il ne l'était pas dès la première heure. En réalité, on a été face à des attentats extrêmement lourds qui nécessitaient une activité policière et judiciaire immédiate. Dans l'état du droit antiterroriste existant, il était possible de mener des perquisitions de nuit. Il était possible, évidemment, que les enquêtes soient intensifiées, et elles l'ont été d'ailleurs, pour aboutir dans un délai rapide, par exemple, à ce que des personnes puissent être mises en cause formellement, mise en examen dès lors qu'il y avait des indices graves ou concordants de leur participation à une infraction terroriste, et cela peut rejoindre une infraction qui est extrêmement large, qui est celle de l'association de malfaiteurs. Et donc, il n'y avait pas de nécessité de prononcer cet état d'urgence, dans la mesure où, sur un plan judiciaire et policier, des choses étaient possibles pour identifier et lutter contre le terrorisme. Et d'ailleurs, les interventions qui ont eu lieu immédiatement après les attentats l'ont été dans un cadre judiciaire. Et que sur la question des autres mesures plus administratives, il y avait également dans le droit commun des mesures qui permettaient, lorsque des éléments étaient réunis, d'agir. Par contre, ce que nous avons dit dès le départ, c'était le risque extrêmement fort qui était associé à cet état d'urgence, qui était un risque de discrimination à l'encontre de nos concitoyens musulmans, puisque ce qui est en cause dans l'état d'urgence, ça n'est pas la commission d'une infraction pénale précisément définie par la loi, mais un comportement suspect. C'est le cas tant pour les perquisitions administratives qui ont été menées en nombre que pour les assignations à résidence. Et on n'est donc pas dans la recherche d'une personne qui pourrait un jour être jugé pour des actes en lien avec une activité terroriste, mais plus dans une logique de suspicion qui est extrêmement dangereuse. Ça n'était donc pas nécessaire, mais ça a eu des conséquences très lourdes sur les libertés, et ça a eu des conséquences d'autant plus lourdes que le contrôle juridictionnel qui est intervenu dans le cadre de l'état d'urgence par les juridictions administratives et par le Conseil d'État n'a pas permis de rétablir un équilibre. Pourquoi est-ce que ça ne l'a pas permis dans la majorité des cas? Il y a eu quand même des cas d'annulation. C'est parce que la définition même juridique de l'état d'urgence, la définition des possibilités, par exemple, d'assignation à résidence ou de perquisition, le cadre juridique même, ne permettait pas véritablement à un contrôle effectif de s'opérer lorsque des juges doivent opérer un contrôle sur ce qui est une catégorie juridique très vague. Celle d'un comportement susceptible de troubler l'ordre public. On a finalement en germe, dans la définition juridique, une insuffisance du contrôle. Ça s'est doublé par ailleurs d'une acceptation d'un certain nombre de modes de preuve, que sont les notes blanches, ces éléments des services de renseignement non sourcés, qui ont été utilisés, invoqués devant les juridictions administratives et qui n'ont pas fait l'objet, à de rares exceptions près, de contestation par les juridictions elles-mêmes. Donc, dans ce contexte-là de l'état d'urgence, on n'a pas plus protégé les citoyens, à vrai dire. On a d'ailleurs eu très peu de procédures antiterroristes qui ont eu pour base unique cet état d'urgence. Il y a des possibilités d'enquête policière et judiciaire en dehors de l'état d'urgence. Et là, on a vraiment été dans un domaine dans lequel on est allé beaucoup trop loin. L'état de droit est en péril en France, c'est une réalité aujourd'hui. Et ce qui est malheureux, c'est de constater qu'en réalité, il y a d'une certaine manière une façon de l'assumer. Le gouvernement a toujours dit que cela se faisait dans le respect de l'état de droit. Et en même temps, on a entendu des petites musiques qui allaient dans le sens contraire. On a entendu au mois de novembre 2015, Manuel Valls dire qu'il fallait prendre le risque de l'inconstitutionnalité. Et que il estimait que en novembre 2015, il ne fallait pas saisir le Conseil constitutionnel, prendre ce risque. On entendait le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à plusieurs reprises parler de l'utilisation d'un principe de précaution. Qu'est-ce que c'est le principe de précaution lorsqu'on parle de lutte contre le terrorisme et de l'état d'urgence? C'est finalement un ministre de l'Intérieur qui assume l'idée selon laquelle on va priver de liberté des personnes contre lesquelles potentiellement on n'aura rien, et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi faire ? Pour protéger par principe. On est vraiment là dans un renversement des valeurs, dans une logique dans laquelle la prévention, la prédiction, d'une certaine manière, des comportements dicte l'action politique avec un point aveugle qui est celui de savoir quelles sont les conséquences de ces mesures en termes sociétaux de manière générale par rapport à ce que ça dit à un certain nombre de nos concitoyens musulmans, ce que disait par exemple la déchéance de nationalité aussi à nos concitoyens binationaux, et puis par rapport à ce que peuvent produire une intervention étatique qui se fait hors du cadre démocratique d'une certaine manière et qui peut au contraire avoir des effets pervers extrêmement préoccupants.
Michel Tubiana, renversement des valeurs, état de droit en péril, vous partagez?
Je ne partage pas l'avis de Laurence. En ce qui concerne les 12 premiers jours de l'état d'urgence, je pense que c'est utile. On peut effectivement se dire que tout est possible dans l'état de la législation avec À ce moment-là, elle a raison. Mais je pense que les circonstances pouvaient justifier pendant ce bref délai cette mesure d'état d'urgence. Mais c'est pas là le débat. Le débat, c'est, et là je la rejoins bien évidemment, c'est ce renversement des priorités, ce renversement de l'ordre institutionnel en démocratie, où l'exécutif s'arroge les pouvoirs, ne les soumet qu'à un contrôle extrêmement restreint, avec cette conséquence au bout du chemin double. La première, c'est de fait et de droit une restriction des libertés individuelles extraordinairement préoccupante, et ce n'est pas le moins important, l'accroissement dans toute une partie de la population d'un sentiment de discrimination qui existait auparavant et qui n'a été qu'amplifié par les mesures qui ont été prises, puisque dans certains cas, on s'est aperçu que certaines mesures, par exemple d'assignation à résidence, n'étaient justifiées que par le fait que telle personne pratiquait la foi musulmane. Point. Et le deuxième élément, c'est qu'en définitive, tout cela empêche de réfléchir, d'aller plus loin. Sur un double registre. D'abord sur les méthodes qui sont employées. Adopter des lois, comme on tire au canon ou à la vitesse d'une mitraillette, évidemment, ça empêche de réfléchir sur le pourquoi de la suppression du renseignement de proximité par Nicolas Sarkozy, ses conséquences, quelles seraient les meilleures configurations policières de renseignement ou autres à mettre en œuvre, ou quelles seraient les meilleures configurations, et c'est pas simple, à mettre en œuvre pour lier le renseignement à la justice au renseignement, tout en garantissant les citoyens. Et puis deuxièmement, bien évidemment, sauf à penser comme un ancien Premier ministre, que penser c'est déjà presque commettre un crime, d'essayer de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Alors qu'en comprendre au niveau des individus qui commettent cela aussi, mais comprendre aussi au niveau des situations géopolitiques. Je suis parfaitement clair, je ne crois pas que les situations géopolitiques puissent excuser, ou que le cursus des individus puisse excuser de quelque manière que ce soit les actes commis. Ils sont insupportables, ils sont condamnables en soi, et ils n'ont pas besoin d'aller chercher d'explications à ce propos-là. En revanche, ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre pourquoi. Parce que ce sera quand même là que nous trouverons les moyens les plus efficaces d'y mettre un terme.
Alors justement, vous prononcez le mot efficacité. On reviendra sur la notion géopolitique et de compréhension peut-être davantage dans la deuxième partie de l'émission, en particulier avec Monsieur Bayeldine Hassan. Toutes les mesures que vous avez évoquées, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, finalement, de ce qui s'est fait en France depuis ces attentats, est-ce que il est possible d'évaluer l'efficacité de ce que vous critiquez d'une manière ou d'une autre dans cette émission, Laurence Blisson?
Alors, sur l'état d'urgence, c'est possible d'évaluer l'efficacité et de voir de quel point de vue s'est placée l'efficacité. On a un ministère de l'Intérieur qui a publié beaucoup de chiffres en faisant un certain nombre d'amalgames. Par exemple, sur la question des perquisitions administratives, pour donner le sentiment que ces perquisitions étaient justifiées. D'abord, ils ont mis en avant les armes qui ont été trouvées, les stupéfiants parfois, qui ont été trouvés, et en mettant de côté un peu le fait que dans les pratiques policières et dans les pratiques préfectorales, en réalité, de ces perquisitions, il y a eu une sorte d'effet d'aubaine. Pour une fois, dans certains services, on pouvait aller perquisitionner sans avoir à avoir un quelconque élément matériel, par exemple, ou des éléments pour pouvoir aller chez une personne qui était suspectée. Donc on a trouvé des armes et on a trouvé des stupéfiants. À vrai dire, le terrorisme était bien loin, mais c'est commode. Ensuite, il a été question du nombre de procédures terroristes ouvertes. Et là, même amalgame entre l'effet d'apologie du terrorisme ou d'effet minime, et puis les procédures véritablement antiterroristes qui sont nées de là, qui ont été très faibles, puisqu'on en a eu, je crois, moins d'une dizaine par rapport à plus de 4000 perquisitions administratives, et dont surtout certaines auraient en réalité pu exister dans un cadre judiciaire indépendamment de l'état d'urgence.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Laurence Blisson, Bayeldine Hassan et Michel Tubiana dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le terrorisme en débat pour cette édition réalisée en partenariat avec l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, qui organisait cette semaine à l'Assemblée Nationale à Paris un colloque consacré au terrorisme. Nous retrouvons nos invités, Laurence Blisson, secrétaire générale du syndicat de la magistrature, Bahia Hassan, directeur du Cairo Institute for Human Rights Studies, institut du Caire d'études sur les droits de l'homme, et Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Bahia Hassan, pardonnez-moi, je ne vous ai pas sollicité dans les premières parties de l'émission, c'était important de faire un tour d'horizon des mesures qui avaient été prises en France. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est dit jusqu'à présent et sur la situation en Égypte ?
هناك تجاوز لكل أعمق المخاوف اللي عبر عنها ميشيل توبيانا
لورانس بليسون
ولورانس يا القانون يوضع في مصر بواسطة مستشار.
La situation en Égypte elle est beaucoup plus grave que celle qui était décrite en France. Le cadre juridique il est beaucoup plus fragile et il est plutôt écrit et mis après consultation avec des non avec des professionnels et de la société civile, mais par contre avec des conseillers militaires. Alors leur objectif primaire c'est l'oppression. Les invités, ils ont mentionné qu'il y a des dangers sur l'état de droit en France. Cette situation, elle existait en Égypte avant la révolution sous l'empire de Hosni Moubarak. Dans l'autorité actuelle en Égypte, avec Abdel Fattah al-Sisi, les lois et le cadre juridique, ils ont un seul objectif, c'est la restriction de l'espace public, de faire face et ne pas donner de l'espace aux critiques, aux personnes qui essayent de faire de la réflexion démocratique avec une manière pacifique, quelle que soit leur idéologie. Le cadre juridique sur la lutte contre le terrorisme, il ne vise pas à lutter contre le terrorisme. Vraiment, son seul objectif et impact, c'est la fermeture de l'espace public. Juste quelques semaines après l'élection de Abdel Fattah al-Sisi, il y a eu une réforme de code de procédure pénale, spécialement l'article 78. Cette loi, elle était nommée la loi de lutte contre les entités terroristes. Alors, le contenu lui-même, quand on le voit, on l'analyse, on voit qu'il vise en premier lieu et seulement les entités non terroristes et en premier lieu les associations de droits de l'homme et aussi les syndicats.
On va revenir avec Bahia Hassan un peu plus tard dans l'émission sur la notion que vous évoquez sur la responsabilité, les responsabilités conjointes des pays autoritaires dans l'incubation finalement du terrorisme. Je voudrais redonner la parole à Michel Tubiana. Dans la première partie de l'émission, Michel Tubiana, on évoquait les mesures qui ont été prises en France dans la lutte contre le terrorisme et vous appeliez à moins de précipitation finalement dans les décisions qui sont prises en disant que par ailleurs c'était souvent des décisions sur lesquelles il n'était pas possible de revenir en arrière et vous invitiez à une meilleure compréhension du pourquoi de ce qui est arrivé. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée ?
Je pense que comme dans tout combat de ce genre, il y a un combat de l'instant, un combat de réponse par rapport au regard de l'horreur des choses qui se passent, de la nécessité d'y faire face. Mais si cela se borne à un traitement symptomatique, le mal continue à sévir. Et comprendre les mécanismes qui conduisent des hommes, des femmes à se livrer à ce genre de crimes, ça me paraît être le minimum pour un gouvernement qui veut être efficace. Sinon, nos gouvernements passeront leur temps à empiler des lois oppressives, à se glorifier de tels bombardements. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il ne faut pas en faire, je ne rentre même pas dans ce débat, mais le langage guerrier n'a jamais remplacé l'intelligence du langage. Et l'intelligence, en l'espèce, c'est de comprendre quels sont les mécanismes qui ont conduit ces gens à commettre ces actes, quelles sont les causes profondes qui conduisent des pays entiers à sombrer dans le terrorisme. Bah, il explique très bien combien les États autoritaires sont eux-mêmes directement incubatoires des mouvements terroristes. Et j'ajoute un point, combien il est absolument nécessaire de comprendre que les politiques qui ont été menées par les différents États européens, en particulier la France, compte tenu de son histoire coloniale, mais pas simplement elle, qui n'ont jamais été dictées que par une conception purement utilitaire. Et on a soutenu Moubarak jusqu'au bout, Puis après, on a soutenu Morsi. Maintenant, on soutient Sissi. Le seul point commun dans ces manifestations, pour le moins désordonnées sur le plan politique, c'est que qu'est-ce qui protège les intérêts de l'Europe ? Qu'est-ce qui protège les intérêts de la France ? La définition des intérêts est en vue de manière purement sécuritaire, avec deux angles, le terrorisme et la question des migrations. C'est pas un hasard si aujourd'hui il y a 2000 ou 3000 Tunisiens qui sont en Syrie. C'est le produit du régime de Ben Ali qui a très largement instrumentalisé le phénomène religieux dans ce sens-là. Et donc si nous ne comprenons pas que, y compris nos politiques, je tiens à le dire clairement, sont responsables de ce qui s'est passé en France, par exemple, mais s'enchaînent dans des mécanismes avec autre chose, qu'il est nécessaire de combattre et de modifier si on veut apporter une réponse à long terme, et puis on restera à traiter les symptômes, et les symptômes sont toujours extrêmement douloureux.
Laurence Bisson, vous voulez rajouter quelque chose ?
Je pense qu'effectivement, on est malheureusement dans un temps politique qui contribue à ce que on soit dans une accumulation frénétique de dispositifs juridiques, législatifs, plutôt que de chercher à évaluer, comprendre et effectivement identifier les sources. Et en réalité, un phénomène criminel ne se résout pas à coup de loi et à coup d'intervention judiciaire. La justice, elle doit advenir lorsqu'une personne a commis une infraction pénale et notamment face à ces crimes-là, mais elle n'est pas la solution, de la même manière que le travail policier ne sera pas le seul élément dont un gouvernement doit se préoccuper. Il faut évidemment aujourd'hui faire ce travail sur les causes, sur les origines pour pouvoir inverser le cours des choses, et ce sera difficile, évidemment.
Alors, pour élargir, justement, je reviens vers vous, Baya Hassan, deux choses. Vous évoquez la complexe dynamique entre les autocrates arabes, Daesh et la communauté internationale, et vous parlez des pays autoritaires du Moyen-Orient comme des incubateurs du terrorisme. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre réflexion là-dessus ?
فشل أغلبية النظم التسلطية في العالم العربي في تقديم حلول ناجعة للمشاكل الأساسية التي تواجهها مجتمعاتهم، مثل الحد من الفقر، مثل التنمية، مثل أن يكون هناك نظام تعليمي جيد، نظام صحي جيد، مثل مواجهة الفساد.
Tout d'abord, un premier facteur, c'est l'échec total des régimes arabes à résoudre des problématiques qui sont chronologiques et qui se répètent dans le temps, comme la marginalisation de plusieurs parties de territoire, discrimination à l'encontre d'une partie de la population, la non-intérêt à développement, les droits économiques et sociaux. Tout ça, avec l'accumulation, permet à créer un contexte et une atmosphère de tension qui permet aux groupes extrémistes de se proposer et de se positionner comme un alternatif contre cet échec continu. Aussi, un deuxième facteur, c'est les liens très étroits entre les autorités dans les pays arabes et les autorités religieuses officielles. Ces liens d'intérêt réciproque fait que ça donne plus d'espace à des autorités religieuses qui sont conservateurs et qui font que propager un discours conservateur et qui donne la voix à faire apparaître plus des groupes avec une idéologie extrémiste. Là, on a deux autres facteurs. Le troisième facteur, c'est la répression continue, la fermeture de l'espace public. C'est un facteur qui, avec son accumulation, ça augmente la frustration de la population et le sentiment de l'injustice. Quatrième facteur, c'est ces régimes autoritaires essayent de se positionner comme le seul alternatif. Ils font aussi répression à toute autre troisième voie qui essaye de se positionner loin d'un régime fasciste militaire ou un régime fasciste religieux. Cette répression, elle vise à la fois des courants alternatifs socialistes de droite ou même islamistes modérés. C'est dans l'intérêt de régimes qui se voient, lui, et les groupes extrémistes pour qu'ils se voient pour le monde extérieur comme le garant que le pays ne tombe pas dans les mains des extrémistes.
Vous dénoncez l'inefficacité de la Ligue arabe et vous appelez l'ONU à prendre finalement une part plus importante dans ce processus de sortie, de fomentation d'une certaine manière du terrorisme, en tout cas pour essayer de trouver une solution à la situation qui prévaut sur tout le pourtour méditerranéen et dont le Nord est aussi directement impacté et pas seulement.
Les pays arabes, elles sont malheureusement qu'une structure immuable qui est vidée de tout sens et qui n'a aucun impact sur le terrain, qui n'a aucun impact sur les politiques qui pourraient faire face aux problèmes dans la région, pas seulement dans le domaine de la lutte contre la torture, mais aussi sans leur inefficacité et leur non-présence et au niveau des conflits armés qui se perdent dans la région, dans plusieurs pays, ils n'ont aucune présence, aucun impact et aucun positionnement, malheureusement. Si on prend l'exemple des pays arabes, ils n'ont pris aucun positionnement, aucun point en avant. Les pays qui ont eu de l'influence, c'était des pays qui ont agi par leur propre intérêt et c'était dans la plupart des cas néfastes, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, on peut aussi à l'extérieur de la région, l'Iran, aussi citer le cas de l'Irak, la Libye, la Ligue des pays arabes, elle n'était pas présente, elle était inexistante. L'intervention des pays, elle est venue de manière individuelle, selon leur propre intérêt personnel qui est néfaste. C'est pour cela que les Nations Unies devraient prendre plus de rôle et de présence au niveau de résoudre la question de lutte contre le terrorisme dans les pays arabes. La Ligue des pays arabes, elle n'a aucun support politique, ni un support des gouvernements, ni un sentiment de respect de la part de la population.
Peut-être en guise de conclusion, pour résumer un peu cette émission, les contradictions de la lutte contre le terrorisme, c'est moins d'état de droit dans nos pays, là où finalement, vous le soulignez, Michel Tubiana, la question des droits de l'homme est tout à fait centrale dans toute stratégie contre-terroriste.
Oui, parce que le pire, c'est que nous servons d'exemples, et de mauvais exemples. Les régimes comme ceux du maréchal Sissi, Ben Ali en son temps, et d'autres encore aujourd'hui, nous montrent du doigt et montrent du doigt à leur population en nous disant « Mais voyez bien que chez eux aussi, on adopte ces lois, on fait cela, etc. » Sauf que, déjà, c'est nous, c'est pas brillant, et même extraordinairement inquiétant, mais dans un cadre où les institutions sont beaucoup plus précaires, que l'impunité des forces de l'ordre est totale, etc., etc., on arrive à des situations dramatiques d'une justice qui n'est même plus sous influence, mais directement aux ordres, et de policiers ou d'hommes de l'armée qui sont investis d'un pouvoir absolument régalien et l'exercent de manière tout aussi régalienne. Et ça se chiffre en centaines de morts, mais ça se chiffre aussi en une très grande instabilité politique. Car si je prends l'exemple égyptien, je suis amené à constater que l'Europe peut soutenir le maréchal Sissi, il n'empêche que le Sinaï est toujours à feu et à sang, et que la question du terrorisme se pose à l'intérieur de la société égyptienne, et qu'elle ne sera pas réglée à coup de procès de masse, d'exécution, ou de disparition, de faire taire les blogueurs comme aujourd'hui.
Laurence Blisson.
Je crois qu'il faut voir les conséquences possibles des dispositifs juridiques qu'on installe aujourd'hui. Et nous avions la chance au syndicat de la magistrature, il y a maintenant un peu plus d'un an, de recevoir nos collègues magistrats turcs de l'association Yarsav, dont beaucoup sont incarcérés aujourd'hui en Turquie. Ils nous parlaient à l'époque de dispositifs juridiques qui existaient en Turquie et notamment de l'instauration de l'interdiction administrative de sortie du territoire. Il y avait de manière très claire une parenté, une proximité entre les dispositifs dont il nous parlait et ceux qui existent en France. Je crois qu'on a trop tendance à mettre à distance et à penser que ces dérives se produisent ailleurs. Il est important de voir comment est-ce que, quand on crée un maillage juridique, quand on crée des dispositifs, ils peuvent un jour être utilisés dans d'autres contextes. Et donc, ce à quoi nous appelons aujourd'hui, c'est évidemment à une réflexion raisonnée sur ce que peut être une lutte antiterroriste démocratique. Et pour cela, je rappellerai l'enseignement à mon sens, fondateur de la Cour européenne des droits de l'homme, qui alertait les démocraties en disant que les États ne peuvent pas prendre n'importe quelle mesure jugée par eux appropriée, parce que ce qui était en jeu, c'était le risque de saper les fondements de la démocratie au prétexte de la défendre.
Mais Yassan, vous êtes égyptien. Quel est votre message dans la situation que nous connaissons, que vous voudriez faire passer ?
De mon point de vue, qu'en États-Unis et en Europe, la question de la lutte contre le terrorisme, la manière qu'on l'aborde, elle aborde seulement les apparences extérieures et on ne s'attaque pas aux raisons même qui ont pu faire émerger une telle situation et comment les résoudre en profondeur. Ça, c'est une contradiction, mais la contradiction la plus forte et aussi choquante, c'est que ces mêmes pays européens et en États-Unis, elles appuient des régimes autoritaires qui, par leur politique répressive, ils produisent des zones de tension qui favorisent l'extrémisme et par leur répression continue aussi. Ils affectent une certaine partie de la population qui devient eux-mêmes cible des groupes extrémistes. Alors, ces régimes qui sont appuyés par l'Occident, c'est des régimes qui favorisent le terrorisme. Et ça, c'est une contradiction totale. Comment ils veulent lutter contre le terrorisme et en appuyant des régimes qui produisent le terrorisme. Par exemple, un pays comme la France, elle devrait à la fois mettre une stratégie cohérente et large de s'attaquer aux racines même des terrorismes et de mettre en place des liens avec des forces alternatives dans le monde arabe pour s'attaquer aux racines du terrorisme lui-même. Alors, si on prend l'exemple de Sinaï, comment ça se fait que des groupes extrémistes violents en Sinaï se prennent de plus en plus de capacité d'opérer et d'effectuer des attaques armées de plus en plus de grande échelle et que l'organisation de l'État islamique en Syrie et à la Libye, elle se réduise. Et comment on pourrait expliquer ce phénomène? On peut expliquer ce phénomène par à la fois l'échec de régime égyptien de trouver une solution à qu'est-ce qui se passe au Sinaï et qu'est-ce qui se passe vraiment au Sinaï et aussi comment la communauté internationale regarde le contexte réel dans lequel ce qui se passe en Sinaï. Et pour prendre aussi des propos qui étaient cités dans ce colloque, remettre les événements dans le contexte réel, il permet à comprendre les racines même qui sont à l'origine de l'apparence et du pouvoir de ces groupes extrémistes. Le Sinaï, c'est un territoire qui était marginalisé depuis très très longtemps. La population de Sinaï sont cible de discrimination depuis des décennies. Et aussi le fait qu'il y a ces groupes en Sinaï et leur présence en continu donne une légitimité au régime au Caire de pouvoir de plus en plus mettre en place des lois et des pratiques répressives.
Alors pour conclure, c'est finalement ne pas s'en tenir aux symptômes, mais davantage comprendre les racines du terrorisme, de façon à changer finalement le logiciel dans notre tentative de compréhension. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Laurence Bisson qui est secrétaire général du syndicat de la magistrature, Baye Hassan, directeur du Cairo Institute for Human Rights Studies, qui est l'institut du Caire d'études sur les droits de l'homme. Je remercie aussi Karim Salem, qui est chercheur Libye à ce même institut du Caire d'études sur les droits de l'homme, pour avoir très agréablement et traduit les propos de Monsieur Hassan. Merci aussi à Michel Tubiana, qui est président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Je signale la sortie prochaine de l'ouvrage de Monsieur Hassan, un ouvrage qui sort en anglais et qui est donc consacré aux dynamiques de l'incubation sociale du terrorisme dans les pays du monde arabe. Un ouvrage apparaître dans quelques semaines. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Marc Fichet, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, nous consacrerons l'émission à la Turquie. À très bientôt.